Pulsan. L'émission de la SAN, la Société d'Astronomie de Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles avec la Société d'Astronomie de Nantes, l'émission mensuelle de la SAN. Découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir, bienvenue à tous. Vous êtes en direct sur Alter Nantes, mais plutôt nous sommes en direct sur Alter Nantes, avec la Société d'Astronomie de Nantes. Ce soir, nous avons un thème principal, c'est la rencontre entre la technique amateurs et professionnels, en fait la technique des astronomes et la connaissance, tout ce que la technique apporte à la connaissance et tout ce que la connaissance apporte à la technique aussi. Nous aurons en plus nos petites rubriques habituelles avec Régis Larcher qui nous parlera du ciel du mois et Stéphane Nega des actualités mensuelles, pas que du ciel, c'est ça. Hein. Tout de suite, retrouvons Régis Larcher pour le ciel du mois. Alors Régis, entre les averses, qu'est-ce qu'on peut voir quand le ciel est dégagé?
Eh bien, en ce moment Thierry, quand le ciel est dégagé, on peut voir en fait très peu de choses en ce qui concerne le système solaire, puisqu'on est dans une situation qui suit en fait celle du mois dernier, où on a assisté le mois dernier à une formidable conjonction autour du Soleil, où toutes les principales planètes étaient regroupées. Donc je vais faire un petit peu le tour de l'état des choses actuellement. En commençant par Mars, qui se trouve dans les lueurs du crépuscule encore, donc qui est très difficile à observer. Jupiter et Saturne, quant à elles, sont situées au petit matin, donc dans les lueurs de l'aube. Elles sortent de l'obscurité. Elles se dégagent à peine de l'obscurité quand le Soleil va se lever. Et puis Uranus et Neptune, quant à elles, sont parfaitement visibles en plein milieu de nuit, vers 0h temps universel. Ils sont dans la constellation du Capricorne, mais malheureusement, elles nécessitent un instrument pour être observées. Alors, il nous reste les deux planètes intérieures, que sont Vénus, qui sera occultée par le Soleil entre le 10 et le 12 juin. Alors, bien évidemment, là aussi, c'est un phénomène très intéressant, mais totalement inobservable, puisqu'en fait, Vénus va passer derrière le disque du Soleil. Il faudrait donc être en plein jour pour pouvoir observer ce phénomène, et malheureusement, le Soleil nous éblouirait. Alors il reste seulement Mercure en fait.
Eh bien, disons, sur 9, il n'en reste plus qu'une.
Effectivement. Bon, je ne parle pas de Pluton qui est relativement faible et qui nécessite des moyens photographiques et instrumentaux assez importants pour être détecté. Alors, Mercure donc est une petite planète qui est très rarement observée. Elle est actuellement. Elle va avoir son élongation maximum le 9 juin, c'est-à-dire très bientôt. Alors elle se situera à 24 degrés du Soleil, c'est-à-dire que l'élongation maximum correspond au moment où la planète va se trouver le plus éloignée du Soleil. On va donc pouvoir l'observer le soir, au crépuscule, et lorsque l'on va pouvoir grossir un petit peu l'image avec un télescope ou une lunette astronomique, on verra que Mercure présente donc une phase un petit peu comme la Lune, puisque c'est le même phénomène qui agit entre Mercure et le Soleil, et la Lune et le Soleil. Elle présentera un premier quartier ce 9 juin, donc, puisqu'elle se trouvera exactement à 90 degrés du Soleil, par rapport à nous, bien sûr. Alors, son repérage de Mercure s'effectuera aux jumelles, ou alors à l'aide d'un petit chercheur. J'en avais déjà parlé un petit peu le mois dernier, donc je vais juste faire un petit rappel.
Dans quelle constellation qu'elle va être, alors ?
Bah, en fait, je serais incapable de dire la constellation.
Ah, mais juste derrière le Soleil.
Elle va être juste au-dessus de l'horizon ouest. Donc, il faut balayer cet horizon. Il faut choisir, bien sûr, un site qui soit bien dégagé de toute lumière parasite et puis qui permette d'observer vraiment très bas sur l'horizon.
On peut rappeler à quoi ça ressemble finalement une planète, comme ça, que ce soit Mercure ou Jupiter ou d'autres, hein, par rapport aux étoiles par exemple.
Je dirais que la grosse différence, bon, elle n'est pas flagrante sur Mercure, mais la grosse différence par exemple sur Jupiter, Mars ou Saturne, c'est en fait l'éclat de la planète qui est beaucoup plus blanc que les étoiles.
Plus important aussi.
Plus important, surtout pour Jupiter et Saturne. Et surtout, le phénomène de scintillation est beaucoup plus atténué sur les planètes. C'est-à-dire qu'en fait, comme elles réfléchissent la lumière du Soleil, on ne les voit pas scintiller de la même façon. Elles ont un diamètre apparent, un diamètre angulaire, et ce qui fait qu'on n'a pas ce phénomène de...
On peut peut-être dire aussi que, effectivement, pour repérer une planète à côté du Soleil, en fait, c'est assez facile, si, parce que c'est la seule étoile, entre guillemets, que l'on voit. Hein. Les autres étoiles, on ne les voit pas du tout dans les lueurs du Soleil. Alors, quand on voit une étoile dans les lueurs du Soleil, il y a de fortes chances que ce soit une planète.
Tout à fait. Et il y a de fortes chances aussi pour que ce soit... Enfin, le plus souvent, c'est Vénus et Mercure, qui sont donc des planètes intérieures, c'est-à-dire que leur orbite est inscrite à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Donc, elles ne s'éloignent jamais beaucoup du Soleil. Alors, ça rend leur observation difficile, surtout pour Mercure, mais ça rend aussi leur repérage assez aisé. On ne va pas aller les chercher dans des régions très hautes sur l'horizon. On sait à peu près où les trouver.
Un gros problème en plus, vu qu'ils suivent le Soleil, c'est que le temps d'observation est beaucoup plus court que Saturne, qui passe toute la nuit.
Tout à fait. Il faut vraiment commencer à la recherche de la planète dans les lueurs de l'eau du crépuscule, alors qu'il fait encore relativement jour. Hein. Et on ne dispose en moyenne que d'une petite heure pour l'observation et la photographie. Alors l'observation, justement, j'y viens, à l'aide d'un télescope, je pense que c'est assez indispensable. Il faut pas hésiter en fait à grossir assez fortement sur Mercure, de l'ordre de 100 à 250 fois. Et par contre, on va tout de suite être confronté à un problème qui sont des reflets jaunes, verts et rouges, surtout avec les lunettes astronomiques, à cause de la diffraction dans le verre et dans la diffraction atmosphérique. Ces reflets, donc, il va falloir essayer de les atténuer au moyen d'un filtre bleu, si possible, si on en a à sa disposition. Et puis, lors de l'observation des phases, on va pouvoir, au fil des jours, si on a bien repéré cet astre, le suivre pendant plusieurs jours, suivant donc son élongation maximum, qui va nous permettre de bien le repérer. Et on va pouvoir voir l'évolution des phases au fil des jours et suivre un petit peu, je dirais, non pas la météo, mais l'aspect visuel de Mercure. On peut également la photographier. Alors moi, je pense qu'il vaudrait mieux utiliser un film noir et blanc et peut-être pas un film haute définition, mais je pense qu'un HP5 ou un T-Max, pour ceux qui connaissent et pour ne pas faire de publicité, ça suffirait amplement. Puisque ça permet en fait de supprimer toute une partie de reflets de couleurs. Alors il faut utiliser une projection oculaire, c'est-à-dire placer l'appareil photo derrière l'oculaire, lui-même placé au foyer du télescope, de manière à agrandir l'image au maximum, poser de l'ordre de 1 à 4 secondes, il est souhaitable de faire des essais quand même, et disposer impérativement bien sûr d'une monture équatoriale motorisée, et si possible faire une occultation manuelle, c'est-à-dire en fait comme on faisait des photos dans le temps. Alors, sinon, l'événement, je dirais, majeur de ce mois de juin, c'est bien sûr le solstice d'été qui a lieu le 21 juin. Il y a également la fête de la musique le même jour, mais je pense que pour nous, astronomes, le solstice d'été, c'est plus important.
Quoique, avec la fête de la musique, je ne suis pas sûr qu'on puisse observer grand-chose dans Nantes. Hein. Il y aura de la lumière partout.
Oui, je crois qu'il faudra s'en éloigner. Alors sinon, en ce qui concerne les constellations, on va retrouver donc les constellations d'automne qui ont tendance à se coucher de plus en plus de bonne heure. Et donc je dirais le triangle Arcturus, Antares très rouge au ras de l'horizon et Spica au sud-ouest, Spica donc de la constellation de la Vierge. Et puis en milieu de nuit, le triangle d'été va commencer à être particulièrement bien observable avec donc, je le rappelle, Vega, Deneb et Altaïr, ainsi que la Voie lactée qui sera de plus en plus visible jusque pendant tout l'été. Et alors l'événement, à venir, c'est en fait la comète de l'été, qui s'appelle la comète 1999 S4 Linear, donc la comète Linear, qui a été découverte en octobre 1999, et qui est passée donc en conjonction avec le Soleil au mois d'avril, et qui redevient actuellement visible dans la constellation du Triangle au petit matin. Sa magnitude actuelle, elle est de 9,2, donc c'est encore assez faible. Il nous faudra, je pense, un télescope ou une lunette pour l'observer. Et aux alentours du 20 juin, sa magnitude devrait monter aux alentours de 7,8. Alors ce sont des estimations, bien sûr, hein, puisque c'est très difficile de prévoir les éclats des comètes. Hein, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et je dirais en fait que ce sera la comète de l'été, parce qu'elle passe donc au périhélie le 26 juillet, c'est-à-dire à l'endroit de son orbite où elle se trouve au plus près du Soleil, ce sera le 26 juillet, une distance de 115 millions de kilomètres. Et à cette date, elle sera seulement à 56 millions de kilomètres de la Terre. Alors pas de panique, hein, il ne faut pas déménager ni préparer ses affaires. Ça fait en gros 150 fois la distance Terre-Lune, donc il y a largement la place pour qu'elle passe. Hein.
Tu fais exprès parce qu'il y a Armageddon qui passe sur Canal Plus ce mois-ci.
Ah oui,
qui va faire paniquer tout le monde.
Non, je pense que là, ça n'en vaut pas la peine. Alors bah, je pense qu'il sera souhaitable à tous les gens qui sont passionnés par les comètes de commencer à l'observer dès maintenant, donc dans la constellation du Triangle, au petit matin, pour essayer de détecter cette tache floue, hein, cette petite tache floue donc au télescope. Essayer de faire, pourquoi pas, quelques photos ou du dessin hein, du noyau de la comète et de l'évolution de la chevelure et de ce noyau au fil des semaines pour voir un petit peu tout ça se développer.
Donc en clair, il y a Mercure et puis la comète, il n'y a pas grand-chose.
Voilà, tout à fait. Ça reste quand même assez limité. Bon, il y a toujours moyen de faire de la photographie des constellations lorsqu'il n'y a pas de lune. Hein.
Je note, mon cher Régis, qu'à plusieurs reprises, tu as souligné l'importance de disposer d'un instrument pour mieux observer et notamment détecter les phases de Mercure, ce qu'on ne verrait pas à l'œil nu, ou la comète. Alors ça nous amène droit dans notre thème, hein, l'instrumentation au secours de la connaissance et tout ce qu'il faut en penser.
Tout à fait. Un petit rappel aussi sur les phases. Ce n'est pas un mot plus compliqué qu'un autre. Simplement, c'est que pour ceux qui regardent dans le ciel, vous en voyez tous les jours quand vous voyez la Lune, quand ça passe du premier quartier pour une nouvelle lune, etc., dernier quartier, ce qu'on appelle les phases de la Lune. Et donc, vous avez les mêmes phénomènes avec Vénus et Mercure, que vous a parlé Régis. Merci Régis. Tout de suite, nous allons avoir un débat qui a été enregistré lors des journées de Nantes 2000, c'est-à-dire le congrès organisé par la Société d'Astronomie de Nantes, en avril 2000.
Oui, mon cher Thierry. Alors, je vous rappelle, lors de notre dernière émission, nous vous avions déjà gratifié, si je peux dire, d'un enregistrement qui avait été réalisé lors de ce congrès, au petit déjeuner radiophonique, débat avec Agnès Acker et Michel Fauchère sur le futur de l'astronomie, l'astronomie amateur et professionnelle. Et on a bien souligné, lors de ce petit débat, toute l'importance à la fois de prévoir, enfin on essayait de rendre ce futur prévisible à partir de ce qu'on connaît, d'essayer de mettre en place ce qu'il faut pour connaître mieux, et toute l'importance aussi du facteur humain, c'est-à-dire la part de l'homme qu'il y a dans l'élaboration de cette connaissance. Alors justement, ceci nous a amené à un autre débat qui a eu lieu donc après, l'une des deux tables rondes organisées au cours de ce même congrès, donc début avril, et nous avions enregistré à ce moment-là Michel Fauchère, toujours Agnès Acker, qui sont deux astrophysiciens, et le débat était animé par Jean-François Gauthier. Et tout de suite, avant de passer la parole à ces éminents scientifiques, un petit mot sur ce débat, qu'on a intitulé « La technique à la rencontre de l'univers », d'ailleurs qui donnera matière à trois autres, que nous passerons au cours de trois autres émissions, hein, la suite de ce débat, qui a été fort riche, public. Et dans ce premier débat, nous abordons justement toute la question comment la connaissance est-elle bâtie, quelle instrumentation faut-il mettre en place, et le retour de cette instrumentation sur la connaissance. C'est ce que nous allons entendre maintenant au cours de ce débat enregistré donc en avril dernier.
Bien, pour nourrir un petit peu le débat qui va suivre, on peut peut-être commencer par demander à Michel Fauchère de nous raconter une période, non pas de sa vie, mais de l'histoire de l'interférométrie qu'il a vécue, parce que cette histoire montre bien ce qu'il peut y avoir d'interaction entre l'élaboration d'une technique, les hommes qui la font, par qui cela réussit ou échoue, et cela ce sont des rapports institutionnels. Et une fois que les choses réussissent du point de vue technique, alors évidemment il y a des ouvertures sur des observations qui ne pouvaient pas être menées sans ces techniques. Michel, si tu veux commencer par là.
Je ne vais pas revenir sur l'histoire depuis les débuts, mais je crois que dans ta question, on va essayer de reparler d'une époque qui est peut-être le renouveau de l'interférométrie. Dans les années 70, je vous avais dit en fait que l'interférométrie est presque morte-née en 1930 après des essais infructueux de Michelson et Pease avec un interféromètre de 15 mètres, Mount Wilson aux États-Unis, qui en fait sous des problèmes dus aux vibrations dans cette poutre gigantesque empêchait de voir les franges d'interférence sur des étoiles géantes pour des bases supérieures à 6 mètres. Et en fait, depuis cette époque, ça a dégoûté les gens. Et je dirais que ce qui a permis à l'interférométrie et à ces techniques, en fait, de façon générale, de renaître dans le début des années 70, c'est un peu la conjonction de plusieurs facteurs. Et on peut s'interroger, on peut essayer de réfléchir sur la façon dont, comment naît une invention, si vous voulez. Quels sont les paramètres qui contribuent J'ai toujours l'impression, personnellement, que les découvertes, c'est l'évolution des découvertes et de la science se fait par à-coup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui convergent, sans que personne n'en ait conscience, au niveau technique. Et au niveau surtout de l'intérêt, qu'on pourrait dire intellectuel, hein, il y a des sujets qui viennent à la mode comme ça spontanément. Et puis ensuite, on s'aperçoit que tout est mûr, et puis il y a un déclencheur, il y a un monsieur qui arrive et qui s'empare de tout ce qui est là, qui est prêt, qui est mûr, et puis ça décolle, on décolle une nouvelle idée. Et je crois que je ne voudrais pas trop non plus mettre en avant la personnalité d'Antoine Labéry, enfin qui était mon directeur de thèse, j'avais beaucoup une admiration assez énorme pour lui, mais c'est vrai que je trouve que à l'époque, en 1974, lorsque l'interférométrie à deux télescopes indépendants est née, il y avait en fait tous les facteurs présents pour le permettre. Il y avait d'abord une meilleure connaissance de l'atmosphère, de son comportement sur la formation des images en astronomie avec des grands télescopes. Je crois que les travaux précédents de François Rodier, d'un certain nombre de gens, ont permis d'expliquer, de comprendre comment, sous l'effet de la turbulence atmosphérique, comment se formaient les images au foyer des grands télescopes. Ça a été un premier point qui a permis de se libérer de l'idée qu'on n'y arriverait jamais. En fait, on construisait des télescopes de plus en plus grands uniquement pour récupérer du flux, mais pas pour améliorer la résolution, c'est-à-dire voir plus de détails dans les objets. Une autre chose qui a certainement contribué à cette découverte, enfin, en tout cas la construction de cet interféromètre qui a ouvert des horizons énormes à l'époque, c'est l'électronique. L'électronique a permis, on avait des moteurs, on commençait juste à avoir des asservissements, par exemple, de la position des images. En interférométrie, il est très important, si vous voulez voir des franges, de pouvoir superposer les deux images issues des deux télescopes. Seulement, le seeing, l'atmosphère, en fait, engendre des espèces de mouvements aléatoires du barycentre de l'image, qui fait que vous avez la superposition de l'une et de l'autre venant des deux télescopes assez peu souvent. Donc il faut pouvoir coincer, finalement. Alors ça, ça a été possible grâce à l'électronique. Donc si vous voulez, ça c'est une deuxième chose qui a certainement contribué. Après c'est l'automatique. Alors vous voyez, là je pense qu'il y a eu à la fois des développements techniques qui ont permis à une idée qui était vieille comme vraiment comme Hérode, je veux dire que l'idée de faire de la haute résolution et les télescopes, ça faisait quand même longtemps, je crois que ça faisait 100 ans qu'on essayait de faire ça, d'éclore. Et puis il y a eu la volonté d'un homme qui a été contre les idées reçues de l'époque sur le fait qu'on ne verrait pas de franges sur des étoiles, par exemple, à plus de 20 mètres de base. C'était l'état d'esprit. Il n'a pas accepté de ne pas résider, et il a continué tout seul. Et il est arrivé. Je crois qu'une fois qu'on a obtenu des franges sur Vega avec une base de 12 mètres et deux télescopes indépendants, la porte était ouverte à toutes les possibilités. On ne voyait pas pourquoi on allait restreindre les bases, c'est-à-dire les distances entre deux télescopes. Et voilà. Donc là, c'est une histoire que... Je ne sais pas si ça répond à la question, mais...
Il y a une bonne partie de la réponse, à savoir que la mise au point d'une technique et l'ouverture vers le monde qu'elle permet d'observer est sous la dépendance de facteurs qui sont a priori non convergents. C'est-à-dire que c'est dans l'esprit de quelqu'un ou dans une équipe d'hommes que ces facteurs vont devenir convergents. Et a priori, oui. Entre le développement de l'électronique et le développement de l'interférométrie, il n'y avait pas de rapport. Simplement, l'un a eu besoin de l'autre. Et il se trouve que le développement de l'électronique était suffisant pour répondre aux besoins qu'a eu l'interférométrie à ce moment-là. On aurait pu très bien se trouver dans une conjoncture différente, auquel cas il n'y aurait pas eu de débouché. Il n'y aurait pas eu de mise au point technique. Donc là, on est un peu comme dans ce que Cournot appelait le hasard, c'est-à-dire le croisement de suite d'événements qui ne sont pas a priori liés. Il y a dans ce que Daniel appelle systématiquement le progrès, disons l'histoire, parce que c'est pas forcément progressif, c'est-à-dire que c'est pas forcément mieux après qu'avant. Il y a dans l'histoire de la technique un autre facteur sur lequel on pourrait demander à Agnès Sacquer d'intervenir, c'est le facteur « on cherche quelque chose ». Alors, ce quelque chose comme objet, on ne le connaît pas forcément, mais le « on cherche quelque chose » vont dire que l'on a déjà une certaine direction de pensée. Et cette direction de pensée est évidemment dépendante des techniques dont on dispose. Agnès ?
Oui, l'idée étant, donc, en fait, on ne trouve que ce qu'on cherche. Et ça, bon, dans mon expérience personnelle... c'est clair que on trouve par exemple la période d'une étoile double, et pour cela parce qu'on on cherche à étudier l'étoile double, et donc pour ça quel outil on a la variation de la vitesse radiale, et donc on se concentre sur la variation de la vitesse radiale, et peut-être que on passe à côté d'un autre facteur qui est dans l'étude des raies de l'étoile que l'on regarde, parce que on est obnubilé par ce seul facteur, je cherche la variation de vitesse radiale. Alors donc c'est en fait j'ai longtemps travaillé sur les étoiles doubles. C'était mon premier thème de recherche, et c'était aussi lié aux possibilités, donc ça rejoint cet autre thème de notre table ronde, les possibilités techniques qui conditionnent ce que l'on cherche. Et donc, on cherche, et on ne trouve que donc ce qu'on cherche, et qui est justement imposé par les possibilités techniques. Or, les possibilités techniques, moi j'ai eu la chance de vivre une évolution profonde de la technique, des possibilités techniques, puisqu'on a passé de la photographie à l'informatique et au récepteur CCD. J'ai vécu l'époque où je prenais les spectres d'étoiles doubles, puisque c'était la chose que je pouvais faire avec les moyens de ce temps-là. Il est relativement facile de déterminer la vitesse radiale, parce que vous n'avez pas besoin d'une étude profonde au point de vue qualité du spectre. Donc on peut observer pas mal d'étoiles et voir si elles varient au point de vue de leur vitesse. Et donc ça, je l'ai fait très longtemps, parce que je pouvais le faire. Et donc c'était l'époque où on observait dans la coupole ouverte, donc on était comme vous, avec le vent, on était en bibendum, donc avec réellement, l'observateur mettait à disposition d'ailleurs des pantalons et puis des vestes de duvet. Et on tenait la nuit entière avec des rafales, je me souviens, de vent glacé ou qui charriait quelques débris d'ailleurs de glace qui traînaient sur les arbres, et on était complètement frigorifié, et le froid aidant, et comme les temps de pause duraient quand même jusqu'à 8 heures, eh bien il m'est arrivé, je le dis sans honte, hein, d'avoir l'œil contre l'oculaire et de m'endormir pendant 5 minutes, parce que les nuits d'hiver on était debout pendant 14 heures. Et donc ça, c'était l'astronomie. Mais alors, où je peux dire, on était saisi par, d'une certaine façon, bon, c'est peut-être un peu poétique et imagé, mais c'est quand même quelque chose qu'on ressentait profondément dans les vibrations de l'univers. Enfin, vous voyez, c'est vraiment profondément, on voyait les étoiles et on se rendait compte que l'objet qu'on regardait, ben, il était très très loin et qu'il était insaisissable. Ensuite, ça a changé avec l'évolution des techniques. Il y avait le fameux multiphote à l'Observatoire de Haute-Provence, où je continue à observer. Et puis, et là, il y a d'autres choses qui ont surgi. C'est-à-dire que c'est une technique qui se passait en chambre. Et donc, c'est comme hier soir. D'ailleurs, ça m'a fait sourire. Hier soir, il y avait une partie des observateurs qui étaient dehors à voir les franges avec Michel, et une autre partie qui était... et qui faisait rien finalement, qui appuyait, voilà, je veux voir M51, hop, M51, voilà, M51 arrive. Et donc, mettons au point du technique, c'est pas tout à fait comme ça, mais quand même, c'était confortable, c'était fini le vent qui soufflait. Alors, ça veut dire, mais par contre, bon, nous on a, par exemple là, je reviens donc du 3,60 m, il y a 12 écrans. Des grands écrans. Il y en a 6 pour l'assistant de nuit et 6 pour l'astronome. Et donc, mais c'est à température constante, et donc il n'y a plus cette agression physique. Mais là, il y a un autre danger. Il y a, mettons, d'un côté, on est, mettons, modeste, et puis confond, mettons, quelque part, on prise directe avec l'univers, c'était l'époque précédente. Et cette époque, on devient le magicien qui fait marcher des énormes engins, et c'est une satisfaction extraordinaire. Enfin, c'est une allégresse d'être là, mais c'est tout à fait un autre type d'allégresse, de dominer une technique de pointe, qu'on a la chance d'être en prise avec cette technique de pointe. Et c'est dangereux, parce qu'on perd le recul. Et donc, il faut... Alors moi, je suis très contente d'être de l'ancienne époque, parce que je garde le recul qui habite en moi. Mais sinon, il faut se relativiser de force. Il faut se dire, non, c'est pas une lampe de poche dont je regarde le spectre, c'est quelque chose qui est très très loin et qui me reste inaccessible. Et là, je peux donner, pour terminer, un exemple précis, c'est qu'au début, justement, de le virage, c'était le multifote à l'Observatoire de Haute-Provence, eh bien, ça a conduit à faire, pas moi, heureusement, mais des collègues, des publications sur... Des phénomènes observés dans les spectres donc digitalisés et qui n'étaient simplement que des accidents de la technique. La technique n'était pas bien surmontée et on voyait des sursauts dans le spectre qui étaient simplement dus à une erreur technique et qui a été dit, ah, des nouvelles étoiles à flare, des étoiles... Vous voyez, et ça a été publié. Oui, pas moi, heureusement. Hein, encore une fois, je suis trop prudent pour ça. Mais mettons dans l'allégresse, justement, de cette technologie qui semblait donner des nouveaux résultats et qui n'en était pas.
Oui, il y a une vieille histoire, vieille, non, elle a 80 ans, c'est celle des rayons N à l'Université de Nancy, où tout le gratin de la physique européenne venait le voir, et les rayons N dans les laboratoires, et tout le monde constatait leur existence, sauf qu'au bout de 3 ans, on s'est aperçu que c'était complètement bidon. C'était un artefact de l'appareillage. Revenons au débat. Bon, vous avez eu tous les deux, et dans des domaines différents, l'occasion de vivre l'évolution ou le retournement ou le renversement d'une technique. Est-ce que dans vos deux expériences personnelles, cela correspond d'une part à la mise en évidence et à l'observation d'objets nouveaux? Est-ce que cela correspond aussi d'autre part à une modification dans la compréhension que vous pouviez avoir de l'environnement stellaire ou galactique ou extragalactique? Michel,
je commence, oui.
Tu commences pour respecter la parité, parce que ça, c'est un impératif important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre les citoyens égaux, c'est-à-dire en tant que citoyen neutre asexué, il est normal qu'on respecte la parité de leur sexuation. Si quelqu'un y comprend quelque chose, qu'il me l'explique, je trouve ça beaucoup plus compliqué que les problèmes les plus compliqués de la théologie médiévale, notamment celui du sexe des anges. Michel, à toi.
parité.
Bon, là, je ne sais pas pourquoi la parité fait parler les hommes en premier. J'avais compris l'inverse, mais...
Non, c'est la politesse qui fait parler les femmes en premier.
Je ne comprends pas mieux.
Alors... Alors, pour la première question donc, de Jean-François, l'observation d'objet nouveau, je vais peut-être retourner un petit peu la question. De cette façon, je suis effectivement, même si j'ai fait une thèse d'astrophysique, je suis assez proche de la technique. C'est-à-dire qu'en fait, je me préoccupe beaucoup de... j'ai toujours en tête les applications, effectivement, d'une technique nouvelle en évolution... et essayer de l'utiliser pour faire quelque chose de vraiment nouveau, quoi. En fait, c'est un état d'esprit, en fait. Essayer de faire des choses que les autres ne font pas, tout de suite, très vite. C'est pas pour faire un scoop, c'est pour se spécialiser, si vous voulez. Je crois que dans le cas de ce qui a été fait, si je reviens à l'interférométrie, j'aurais des exemples aussi à donner en optique adaptative, parce que j'ai eu la chance de travailler 3 ans là-dessus à la CIA, et pour mettre en place le prototype, là, Common Plus à Denis, et... il y a eu des expériences aussi intéressantes, puisqu'il fallait finalement essayer de voir quel était le domaine de prédilection de ces choses-là. On a compris par exemple que dans toutes ces méthodes, que ce soit l'interférométrie ou l'optique adaptative, il y a une période assez longue pendant laquelle on obtient des résultats avec des objets assez simples. Et finalement, j'ai été accusé par déjà 2 personnes depuis hier du fait que peu de résultats sortent de ces techniques. Je dirais que c'est faux, il y a des résultats. Ils ne sont pas aussi flamboyants que ceux qu'on pourrait espérer. Mais, alors, je dirais que dans des domaines, si on revient maintenant à l'interférométrie, en dehors des choses assez classiques et attendues, dont parlait Agnès, c'est-à-dire... on a construit des interféromètres, il y en a même certains qui ont été spécialisés pour ça, pour, par exemple, mesurer des diamètres angulaires d'étoiles. Il y a un intérêt astrophysique. Je crois que les modélistes de modèles d'atmosphère stellaire sont très demandeurs de diagrammes à chair observés. C'est-à-dire que la température effective des étoiles, la meilleure façon de l'obtenir, c'est d'avoir le diamètre de cette étoile. Parce que il se trouve que ça varie comme le diamètre à puissance 4. Et donc, et c'est pareil, le flux bolumétrique, qui est l'autre paramètre, si vous voulez, on a des observables aussi. Et je crois que c'est un domaine où on aimerait bien pour un maximum d'étoiles. Jusqu'à présent, c'était que pour des étoiles géantes, celles qui avaient nécessité des bases pas trop grandes en interférométrie. On voudrait avoir donc des diagrammes à chair qui couvrent tous les spectres et tous les types d'étoiles, les types spectraux. Et vous avez un exemple d'interféromètre en Australie qui fait exactement ça, hein, qui a 650 mètres de base. Alors, à l'I2T, puis au GI2T en France, il y a eu un peu toujours le souci de faire des objets un peu spéciaux. Je ne vais pas dans le domaine. Moi, je dois avouer que j'ai fait une thèse relative... à des binaires spectraux et puis des diamètres angulaires, donc à une époque où ça se faisait pas. Donc je veux dire, on faisait ça parce que personne ne le faisait. On avait une base de 70 mètres. C'était unique. On voyait l'univers avec une résolution de 1/1000 de seconde d'arc dans le verre. Donc si vous voulez, on a voulu exploiter à fond cette technique. Certains membres de l'équipe à l'époque se sont spécialisés dans des choses très précises. Une fois qu'on a effectivement, développer des moyens, des techniques qui nous ont... On a remarqué par exemple, lorsque l'on dispersait avec un spectro, bon c'était un prise de vision direct, mais ça c'est un peu sophistiqué après, on dispersait les franges à basse résolution, on n'a pas beaucoup de flux, c'est très demandeur de flux ces histoires d'interférences, et on s'est aperçu par exemple que on était capable dans les étoiles, lorsqu'on observe des raies spectrales, de finalement sonder les profondeurs à l'intérieur des étoiles en regardant ce qui se passait pour les franges présentes dans ces raies. Par exemple, je pense à des étoiles BE, des étoiles à émission. On est capable de résoudre les atmosphères de ces étoiles dans des raies de type, par exemple, les raies H-alpha, etc. Bien, je dirais que ça, c'est une chose qui est venue beaucoup plus tard. Hein. C'est venu en, 7-8 ans ou 6-7 ans après qu'on ait commencé à observer. Et c'est pas dans les domaines espérés, par exemple, comme la polarisation, qu'on a eu des résultats. c'est là. Et ça a été un peu fortuit, c'est-à-dire c'est parce qu'on a observé Gamma Cassis ou d'autres étoiles qu'on a découvert effectivement des problèmes dans ces raies, c'est-à-dire que tout à coup le contraste des franges s'effondrait dans des raies spectrales. Alors ça a ouvert des perspectives, je crois que ce sont des domaines très importants, si vous voulez, qui étaient relativement inattendus. Donc je veux dire, vous avez une technique, et vous pouvez, comme certains l'ont fait, et c'est utile, décider d'utiliser cette technique pour faire un catalogue. D'accord ? Bon, je pense à Hipparchos. C'est extrêmement utile pour tout le monde. Ça a des répercussions dans tous les domaines. Ou vous pouvez essayer aussi de voir si cette technique nouvelle que vous avez, vous êtes en plus tout heureux, tout extrêmement fier, parce qu'il y a très peu de gens qui font ça à l'époque où vous êtes. Et donc vous allez essayer de voir s'il existe des petites niches dans lesquelles vous allez pouvoir vous exprimer. Et qui vont amener des résultats franchement nouveaux. Alors, donc, je dirais que concernant l'interférométrie, l'observation d'objets nouveaux, je dirais qu'elle a été conditionnée par le diamètre des ouvertures, parce que, je vous l'ai dit, sans doute, enfin, en tout cas, je l'ai dit en atelier, les techniques d'interférométrie demandent beaucoup. Nous avons... On ne peut plus l'arrêter. Vous voyez, pour vous donner des exemples, l'interféromètre de Mike Chao aux États-Unis, qui utilisait des ouvertures de 15 cm, était limité à des magnitudes visibles, visuelles, de l'ordre de 9 à 10. GI2T au CERGA, qui recommence à fonctionner depuis un an de façon remarquable. C'est une volonté délibérée de casser ce débat. À des magnitudes du même ordre à peu près. L'I2T lui-même se limitait à des magnitudes de 4 à peu près. Donc si vous voulez, on est très limité sur le choix des objets. Hein. C'est sûr qu'il faudrait des ouvertures beaucoup plus grandes pour pas parvenir à... Alors, maintenant, avec le développement de nouveaux détecteurs, à comptage de photons qu'on sait enfin maîtriser, parce que ça a été encore une technologie qui a pris du temps à mûrir, surtout pour la partie qui suit, c'est-à-dire la partie traitement des images, ou les avalanches photodiodes, les diodes avalanches, vous avez maintenant, ça ouvre des possibilités hein, en magnitude qui permettent des ouvertures de 1m50 d'aller jusqu'à des magnitudes 15. Et là, je crois qu'il y a d'abord quelques quasars qui vont s'ouvrir à nous. On attend tous de résoudre un quasar avec ça nécessite des bases qui sont certainement supérieures à 200 mètres. Mais ça, c'est un vieux rêve. Et on sait très bien que la réponse, c'est l'interférométrie. Donc, si vous voulez, on améliore les choses progressivement. Hein. C'est sûr qu'on s'ouvre de nouvelles perspectives par là. Mais je crois que les objets nouveaux, c'est aussi en observant, si vous voulez, qu'ils viennent à vous, quoi. L'intérêt, effectivement, c'est que quand vous avez un instrument nouveau, tout est permis, quoi. C'est un sentiment qui est assez agréable. J'ai eu aussi ce sentiment quand on a commencé les tests avec l'optique adaptative. C'était formidable parce qu'on nous demandait, en fait, à l'époque, de tester, je dirais, à un niveau technique, cette machine. C'est-à-dire, en fait, ce que les gens voulaient savoir, c'était, en fonction des conditions de seeing, qu'il fallait donc finalement arriver à décrire, et c'était très difficile, quels étaient les résultats espérés, quels étaient les résultats de correction pour une étoile ponctuelle, si vous voulez, qu'on pouvait attendre en fonction des résultats du seeing. Et en fait, pour vous avouer, on en a profité pour faire beaucoup plus, et en particulier pour essayer de comprendre, par exemple, ce qui se passait au niveau de ce qu'on appelle le pas isoplanétique, c'est-à-dire comprendre quelle était l'influence du filtre optique adaptative sur le respect de la distance angulaire entre deux étoiles. C'est-à-dire que vous avez un filtre atmosphérique, vous observez deux étoiles qui sont plus ou moins loin, et vous apercevez que pour une certaine distance angulaire, qui est finalement dans le visible extrêmement faible, de l'ordre de quelques secondes d'arc, eh bien les réponses au foyer du télescope via le filtre de l'optique adaptative, si vous voulez, ne sont plus les mêmes, c'est-à-dire que vous obtenez des distances entre les étoiles qui n'ont plus rien à voir avec les distances que vous avez sur le ciel. Ça, c'est au-delà de quelques secondes d'arc. C'est un problème qu'il faut paramétrer, quoi. C'est un problème qu'il faut arriver à comprendre. Et c'est un problème extrêmement intéressant, parce que si vous êtes sûr de la distance angulaire entre deux objets, et que vous pouvez donc piloter, c'était finalement le but de la manip, c'est-à-dire que vous avez un objet qui est brillant, et vous allez pouvoir faire une correction adaptative à partir de cet objet brillant. Et si vous êtes sûr que l'objet faible, qui est à quelques secondes de lui, n'est pas perturbé, c'est-à-dire qu'il arrive bien au niveau du foyer là où vous l'attendez, vous allez utiliser l'objet brillant pour piloter votre système, et vous allez attendre que les photons arrivent sur l'objet faible. Et vous allez intégrer. Donc vous allez intégrer pendant, mettons, 20 minutes. Alors que vous savez que le problème de l'optique adaptative, c'est que si vous voulez arriver à voir, arriver à faire une correction adaptative, il faut arriver à geler le signal qui vient de l'étoile après son passage au travers de l'atmosphère, de façon à ce que vous voyez finalement la correction qu'il faut faire. Donc il faut arriver à faire des temps de pause très courts, de l'ordre de 10 à 50 millisecondes, pour arriver à, dans le visible, pour arriver à savoir connaître justement le défaut de la surface d'onde et pouvoir corriger, d'accord ? Par contre, si une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ensuite intégrer les photons sur un objet qui est proche de lui, et là, il n'y a plus de limitation au temps d'intégration. Vous allez peut-être pouvoir détecter comme ça des objets très faibles, des galaxies. On atteint maintenant communément avec les systèmes d'optique adaptative des magnitudes 19. Vous voyez que les progrès sont considérables, quoi. Donc vous voyez, on a un peu orienté vers ce type de recherche les premiers tests avec l'optique adaptative. Ça n'a pas été prévu, mais ça a été fructueux. Et je crois que c'était intéressant. Donc si vous voulez, il faut aussi laisser faire les hommes. Hein. Je crois que j'ai toujours un peu peur, si vous voulez, de cette tendance qu'il y a aujourd'hui de vouloir intégrer les hommes, enfin au niveau des professionnels en tout cas, dans des grands programmes, parce que je crois qu'on casse l'initiative personnelle aussi. Or là, il y a des découvertes potentielles. Si on avait encadré la BERI, comme je vous disais, dans les années 70, eh bien, je veux dire, vous ne parleriez pas aujourd'hui de tout ce dont on a parlé hier au point de vue de la haute résolution. Je veux dire, ça ne serait pas évolué aussi vite. Et je crois qu'il faut trouver le juste équilibre entre les deux choses, quoi. Les programmes nationaux sont définis pour obtenir des résultats dont on a besoin, parce qu'on pense que la technique est mûre pour les obtenir. Mais comme disait Agnès, c'est... On sait ce qu'on va découvrir, ou en fait, on sait où on va. Je crois qu'il faut garder une place, si vous voulez, pour des recherches un peu où on ne sait pas trop où on va, mais qui débouchent sur quelque chose qui est très important, quoi.
Voilà. Merci Michel. Si je retiens bien, ou si j'essaye de résumer ce que tu as dit, en fait, il y a deux type de découverte qu'on doit retenir, effectivement des objets nouveaux qui n'avaient pas encore été perçus, ou une vision différente d'objets déjà cartographiés et qui, du point de vue de la physique, prennent une autre nature parce qu'on se laisse informer par eux différemment.
Oui,
d'accord. Bon, ça c'est quelque chose auquel les amateurs doivent être sensibles, c'est-à-dire que vous disposez d'une cosmographie comptant des milliers et des milliers d'objets, mais chacun de ces objets ne répond pas de la même cosmologie, c'est-à-dire de la même partie de la physique. Et selon que vous utilisez tel ou tel instrument, vous en avez une vision qui va être strictement topographique, ou qui va être dans l'infrarouge, ou qui va être dans l'ultraviolet, ou qui va être dans l'X ou le gamma. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aurez affaire à un objet qui, lui, va rentrer dans des relations avec d'autres objets qui vont être complètement différentes parce que vous ne le regardez pas avec la même physique. Ceci est important parce que ça veut dire que l'objet que vous observez n'existe pas d'une certaine manière par lui-même. C'est vous qui, en l'observant et en établissant des relations, lui donnez une existence particulière.
Voilà, vous venez d'entendre un débat qui a été enregistré lors du congrès du dernier congrès des rencontres d'astronomie amateur européenne de Nantes au mois d'avril dernier, avec Jean-François Gauthier qui animait ce débat, en compagnie d'Agnès Acker et Michel Faucher, qui était astrophysicien, donc sur ce vaste thème très important de la rencontre de la technique et de ce qu'on en fait, des résultats de la technique. Hein. On a parlé un peu d'interférométrie, donc c'était une technique à laquelle Michel Faucher a beaucoup contribué, notamment sur les grands télescopes. C'est un moyen très moderne. Qu'est-ce qu'on en a tiré? Vous avez vu la part de recherche dirigée, la part de hasard, pourrait-on dire. Et en fait, Jean-François Gauthier souligne bien toute l'importance de la convergence de facteurs et aussi du facteur humain pour savoir ce qu'on en fait de ces résultats pour ne pas tomber dans le problème des artefacts tel qu'il a été évoqué. Et lorsqu'on trouve des objets nouveaux, eh bien, comment fait-on une compréhension nouvelle de l'univers? Car il ne suffit pas d'observer pour comprendre. Et toutes ces questions vont être examinées tout à l'heure lors d'un petit débat que nous allons avoir ici en direct, justement sur ces questions des relations entre la technique, l'instrumentation et l'évolution du savoir humain, et tout ce dialogue entre technique et instrumentation, toujours sur ce même thème. Voilà.
Alors, nous allons... Merci Daniel. Nous allons, après la pause musicale, avoir, comme a dit Daniel, le développement du débat que vous venez d'entendre. Et pour cette fois-ci, je ne veux pas l'oublier, Stéphane Nega pour les actus mensuels. Alors Stéphane, c'est à toi.
Beaucoup de nouvelles ce mois-ci à propos de l'ISS, la future station spatiale internationale. La navette Atlantis a atterri lundi dernier au centre spatial Kennedy en Floride, au terme d'une mission de 10 jours consacrée pour l'essentiel à redresser l'orbite de la station et à procéder à des réparations. Atlantis est resté amarré pendant 5 jours à la future station en cours de montage depuis 18 mois. Les 7 astronautes ont été les premiers visiteurs d'Atlantis depuis un an. Ils ont rétabli à leur pleine puissance les systèmes électriques, ont redressé l'orbite qui avait décliné et menacé d'entraîner la station vers la Terre, et ont réparé un système de communication. Un module russe de service doit être adjoint à l'ISS en juillet. Celui-ci servira au séjour de longue durée des astronautes. Atlantis doit regagner l'ISS en août pour livrer du matériel avant l'arrivée de la première équipe d'astronautes prévue en octobre ou novembre de cette année. Les lancements devraient se poursuivre à un rythme régulier jusqu'en 2005, année prévue de l'achèvement du montage. À cette date, la station aura autant d'air pressurisé qu'un Boeing 747. Elle sera l'un des objets les plus clairs dans le ciel nocturne et sera le seul objet artificiel visible à l'œil nu. Revenons maintenant sur le plancher des vaches. La Terre aurait une masse de 5,972 sextillions de tonnes. Donc 5,972 suivi de 18 zéros. Telle est donc une nouvelle reçue le 1er mai. Pourquoi cette nouvelle est importante? C'est parce que...
C'est suivi de zéro, mais avant la virgule peut-être. Des zéros avant, la virgule, ils ne vont pas compter.
Voilà. Ouais. Alors pourquoi est-ce que cette nouvelle est importante? C'est parce que la masse de la Terre est déduite de la constante de gravitation, ce qui nécessite une mesure précise de celle-ci.
Pour l'instant, elle est de 1 dixième de la fréquence d'alternante. Voilà.
C'est la référence, en fait. Voilà. Mais voilà, les physiciens donc, s'étaient entendus en 87 sur une valeur qui semblait assez correcte. Mais d'autres mesures en 90 sont venues bouleverser la situation, car elles présentaient d'importantes variations. En fait, en 10 ans, la marge d'erreur est devenue 12 fois plus importante qu'avant. Des résultats gênants à une époque où la valeur de la constante de Planck et la vitesse de la lumière gagnent sans cesse en précision. Filons maintenant vers Mars. La NASA continue sa remise en question après l'échec des dernières missions. Seuls 2 projets survivent au coup de balai américain, une mission purement américaine en 2003 et la mission franco-américaine Mars Sample Return, reportée de 2005 à 2007. Le but de cette mission est de récolter 500 grammes de sol martien et de les ramener sur Terre. Le CNES entend utiliser les 2 ans supplémentaires pour tester à fond les éléments français de la mission.
Ça fera cher du kilo, là.
Oui, mais c'est des kilos très précieux, quand même.
Ah, certes.
On a également parlé de Mars au 100e congrès de la Société américaine de microbiologie qui s'est tenu le 22 mai. Un chercheur qui était devenu l'an dernier le premier à faire croître des microbes dans un environnement supposé être similaire à Mars affirme maintenant que le territoire de ceux-ci n'est pas déterminant pour leur survie. C'est un fait acquis que Mars est au point de départ une cause perdue pour la plupart des formes de vie. Les échantillons de sol recueillis par les sondes Viking dans les années 70 n'ont permis de découvrir aucun matériau organique et la température largement sous le point de congélation réduit encore les espoirs. Pour une telle expérience, le chercheur avait donc besoin de micro-organismes capables de survivre dans les conditions les plus extrêmes. Il s'est tourné vers les méthanogènes, des créatures qui survivent sans oxygène, qu'on ne peut trouver qu'au plus profond des océans, dans la croûte terrestre ou dans l'estomac d'une vache. confronté à un environnement martien, de la sonde de volcan, du dioxyde de carbone, de l'hydrogène et bien oui, de l'eau, en supposant qu'il en reste un peu sur Mars, les microbes se sont mis à croître et à se multiplier. Mais voilà qu'on aperçoit qu'un de ces micro-organismes croît encore plus vite dans l'environnement qu'on a réduit de taille et où il y a par conséquent moins d'eau. Ce que cela signifie n'est pas clair, sauf pour une chose, pour cette partie de la biologie encore toute jeune, l'étude de formes de vie extraterrestres, c'est une deuxième expérience qui démontre que des organismes peuvent survivre dans un environnement reproduisant l'environnement martien. En attendant d'avoir le vrai environnement martien sous la main, c'est le mieux qu'on puisse faire. Ce sont 8 planètes extrasolaires qui ont été découvertes ce mois-ci. Le 4 mai, en effet, une équipe de Genève annonçait avoir détecté autour d'une étoile de type solaire des planètes dont certaines sont moins massives que Saturne. 2 d'entre elles pourraient par contre être des naines brunes de faible masse. Cela porte ainsi à presque 40 le nombre d'exoplanètes découvertes à ce jour. Les naines brunes, justement, intéressent aussi énormément les astronomes. Jusqu'à présent, les scientifiques connaissaient 2 types de naines brunes. Les chaudes, dotées d'une surface variant de 1500 à 3500 degrés et riches en monoxyde de carbone, et les froides, d'une température inférieure à 1500 degrés et riches en méthane. Mais courant mai, un nouveau type de naine brune a été identifié. Des astronomes britanniques ont analysé le spectre de 3 naines et ont montré clairement la présence de faibles quantités de méthane et de monoxyde de carbone.
Les étoiles, tu parles des naines.
Oui, ben c'est ce que j'allais dire.
Bien,
c'est
trois naines.
Parce que les trois naines, des spectres, ou le spectre de trois naines,
ça va devenir X-Files dans 30 secondes.
Non, donc les naines, ce sont des étoiles intermédiaires, en fait, des sortes d'étoiles avortées, quoi. Donc ces objets constitueraient donc un chaînon manquant, donc ces naines qui viennent d'être découvertes, et elles pourraient ressembler à Jupiter et Saturne peu de temps après leur naissance, il y a 5 milliards d'années. Parce voilà pourquoi elles sont intéressantes.
Et l'environnement des naines, c'est pas des naines de jardin, quand même.
Oh là 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 là. Allez, continue parce que là on s'engouffre.
Il y a une nouvelle étonnante qui est parue le 1er mai. On aurait trouvé du goudron dans l'espace.
Ah super, alors ça pour les routes c'est génial. Voilà.
C'est Stardust, la sonde chargée de collecter des poussières interstellaires et de les ramener sur Terre, qui révèle la présence de grosses molécules organiques, surtout des hydrocarbures aromatiques cycliques.
Voilà. Il fait les liaisons. Hein.
Ouais. La pêche interstellaire est étonnante car on s'attendait plutôt à trouver des minéraux simples dans ce milieu qui se trouve pour l'instant en être dépourvu. Hubble fait encore parler de lui ce mois-ci. On savait que 90% de la masse de l'univers n'avait pu être observée, mais plus gênant, la moitié des 10% restants, constitués de matière normale, entre guillemets, n'avait pu être vue non plus. C'est désormais chose faite. Hubble a découvert entre la Terre et un quasar de longs nuages d'hydrogène qui se sont formés peu après le Big Bang, ce qui résout une partie de la matière normale manquante. Qui dit matière noire dit peut-être trou noir. Ces objets énigmatiques sont en effet sous les projecteurs ce mois-ci, car les 2 satellites d'observation...
Un trou noir sous projecteur, ça va être dur, hein.
Non, mais c'est fait exprès.
Oui, j'avais compris.
C'était de l'esprit, mon cher.
Bref, ils sont donc sous les projecteurs, car les 2 satellites d'observation X, le XMM Newton de l'Agence spatiale européenne et Chandra de la NASA, ont repéré des candidats au trou noir.
Chandra Sekhar, non ? C'est l'astronome indien qui est mort il y a quelques années.
Ouais. Qui a travaillé avec Einstein, non ?
Bon, peut-être pas avec, mais en tout cas qui a... Ouais. Poursuivi la théorie des naines blanches cette fois-ci.
Alors XMM a découvert par hasard dans le grand nuage de Magellan une altération soudaine et dramatique d'une étoile binaire qui n'avait pas changé depuis 30 ans. Cette étoile serait accompagnée d'un trou noir normalement invisible, mais il est repérable par la forte émission X issue du gaz environnant le monstre stellaire et venant y tomber à une vitesse vertigineuse. L'étoile repérée par XMM, repérée donc du doux nom de LMC X3, a été happée par son compagnon. Le satellite Chandra a lui aussi repéré un événement similaire dans la galaxie NGC 3783. Il s'agit d'un trou noir produisant plus de rayonnement X qu'un milliard de soleils et qui aspire du gaz à une vitesse proche de la vitesse de la lumière en la chauffant à une température de plus de 100 000 degrés Celsius. Si la matière stellaire a parfois un sort effroyable, cela a aussi été le cas du satellite américain Compton, chargé de l'observation des rayons gamma. En orbite depuis 1991, celui-ci a précipité ce week-end ses 6 tonnes de débris dans l'océan Pacifique. Voilà donc une retraite plutôt inspirée après une vie fructueuse. Compton a détecté 400 sources de rayons gamma, soit 10 fois plus que l'on en connaissait avant. Il a enregistré plus de 2500 explosions gamma ayant dégagé de tels rayonnements contre 300 avant lui. Mais voilà, un de ces 3 gyroscopes est tombé en panne, et si les 2 autres s'étaient arrêtés, le satellite, du haut de ses 511 km, serait devenu incontrôlable. Pour terminer cette revue de l'actualité, une petite colle. Qu'y a-t-il de commun entre la NASA et un dentiste ? Eh bien, c'est le laser. En effet, la NASA ouvre sa technologie, ici un laser utilisé pour sonder l'atmosphère, à la médecine dentaire en proposant un laser produisant 2 longueurs d'onde, ce qui permet d'effectuer 2 types de travaux différents avec le même matériel. Cela soulagerait à la fois le patient et le dentiste, sauf peut-être son porte-monnaie, car ce laser double effet coûte plus de 150 000 francs.
Pièce.
Voilà.
Il y a un autre lien entre le dentiste et la NASA, peut-être pas, mais l'espace, c'est que le siège du dentiste ressemble fort à un siège de cosmonaute. Hein. Et quand nous, on a les joues gonflées par l'abcès dentaire, on y ressemble, aussi.
On se prend pas 3G, mais... Bref, toute cette actualité nous laisse donc penser que le ciel bouge et nos idées avec.
Merci Stéphane. Tout de suite, nous allons voir le développement du débat que vous avez entendu tout à l'heure. J'aurai un petit rappel pour ceux qui veulent avoir des renseignements complémentaires sur les intervenants du débat précédent. Je vous invite à aller sur notre site internet www.san-fr.com. À toi Daniel.
Voilà, donc comme l'a dit Thierry, vous avez entendu un enregistrement réalisé lors du dernier congrès avec Michel Faucher, Agnès Sacquer et Jean-François Gauthier sur ce vaste thème qui est loin d'être, ce débat est loin d'être achevé, entre ce dialogue entre l'instrumentation et la connaissance. Vous le savez, alors là nous allons avoir un débat bien sûr en direct sur ce thème. L'astronomie, peut-être autant ou plus que d'autres domaines de la science, et l'évolution de l'astronomie a été fortement liée à l'évolution technique, ce qu'on appelle la technologie. D'une part, effectivement, cette évolution technique, elle dépend un peu de l'état de nos connaissances. Il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui et qui n'étaient pas possibles hier et qui seront possibles demain, du point de vue de cette technique et aussi du point de vue des conceptions que nous avons du monde et qui vont engager la technique sur telle ou telle voie. Donc ça, c'est une chose. La technique est un peu le reflet de l'état de nos connaissances. Elle est aussi, elle a pour but initial du moins de répondre à nos interrogations. Et les réponses qu'elle nous donne dépendent aussi un petit peu de l'état de cette science. Et en quelque sorte, les sciences vont dire par avance ce qu'elles cherchent, et elles suscitent l'instrumentation qui va permettre de trouver ce qu'on cherche. Mais bien entendu, il arrive aussi que la technique ouvre des mondes nouveaux et révèle des aspects inattendus qui peuvent modifier cette vision du monde. Et pour cela, il faut encore les interpréter correctement, puisque, on l'a dit, il ne suffit pas de voir pour comprendre, et le hasard ne favorise que ceux qui sont préparés, comme disait notre grand pasteur. Donc c'est un peu sur tous ces aspects, est-ce que la technique est suffisante au savoir? La réponse est bien sûr non, mais enfin, qu'est-ce qui va présider un développement technique? Quel prolongement peut-on en attendre? Attendu et inattendu, bien sûr. Attendre de l'inattendu, c'est assez cocasse. Et est-ce que le savoir est origine de la technique, et quelle est la part de la technique dans le savoir? Enfin, toutes ces interactions, toute cette synergie entre les deux, c'est ce que nous allons examiner maintenant. Avec moi pour ce débat, Gaël Vincent.
Bonsoir.
Et Stéphane Legat, que vous venez d'entendre dans ses actus. Et maintenant, nous allons essayer donc de rentrer dans le vif de ce sujet, très vaste sujet, mes chers amis. Alors, nous allons essayer de diviser ce débat en deux grands domaines. Premièrement, on va peut-être commencer par ce qui apparaît le plus évident. La technique émerge en quelque sorte du savoir et de l'état des connaissances et des besoins que suscitent ces connaissances afin d'aller toujours plus loin. Et on va peut-être commencer, je ne sais pas, avec Gaël ou Stéphane, par des exemples tout à fait, on pourrait dire, bateaux dans l'histoire des sciences. Déjà l'invention du télescope et d'autres. Voilà, je vous laisse la parole.
Alors, Daniel, vous avez dit effectivement que les techniques pouvaient naître du savoir. On pourrait mettre un tout petit bémol en disant l'amélioration, qu'il s'agit de l'amélioration des techniques qui émergent du savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il va s'agir d'un effort technique qui va être privilégié et qui va être au service d'un besoin scientifique et surtout qui va répondre à un besoin d'une utilisation astucieuse de nouvelles propriétés physiques découvertes au cours des expériences. Alors, ce que l'on peut, on peut essayer de subdiviser ce point, l'amélioration des techniques naissent du savoir en deux parties. Premièrement, on peut dire qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces améliorations répondent à un besoin à spécifier. En effet, comme dans tout pays, toute science a un budget. On ne badine pas avec le budget de la science, qui est relativement colossal. Il y a des gros investissements qui sont...
On fait des choix, quoi, par rapport à des questions connues que l'on souhaite développer et améliorer. C'est la part du connu.
Tu parles de besoin, mais en fait, le besoin, il n'est pas spécialement scientifique, puisqu'on a réussi, en fait, à repérer des besoins qui sont autres que scientifiques. Et en fait, on repère aussi, peut-être pas souvent, mais à de nombreuses reprises, que ce sont des besoins, par exemple, économiques, ou des besoins économiques ou sociaux qui vont
générer une technique. C'est pour ça que le besoin était spécifié. Est-ce qu'il s'agit d'un besoin qui est lié, qui est ressenti seulement par un cercle très fermé de scientifiques, on va donner des exemples, ou s'il s'agit vraiment d'un besoin lié à un phénomène qui va mettre en cause toute l'humanité.
Alors je crois pour accélérer un peu les choses, hein, on peut peut-être commencer par des techniques évidentes qui naissent d'une question scientifique. On se pose une question, on va développer une technique en conséquence.
Alors si on parle en fait de l'astronomie, puisque c'est ça qui nous intéresse plus, exemple flagrant, c'est le télescope.
Donc le télescope qui est né, on savait regarder dans le ciel. Le tout début est peut-être né un peu du hasard tout à fait, mais enfin... on a eu l'idée de pointer des espèces de jumelles vers le ciel. Mais en fait, c'était presque contenu déjà.
Disons qu'au départ, il existait la lunette d'approche, ce qu'on appelait la lunette d'approche, qui avait un but en fait militaire. Et puis, il y a eu un type un peu cinglé, peut-être, je ne sais pas.
Qui s'est dit, je vais rapprocher les étoiles.
Voilà, si je levais à 90 degrés, et puis ce type, c'était Galilée. Alors peut-être qu'avant lui, il y a eu des précurseurs, mais on va retenir en fait la légende surtout. Donc, et en fait, ce simple fait va quand même propulser le savoir...
Il faut rappeler que pourquoi c'est venu si tard, mais tout simplement parce qu'on pensait que le ciel c'était des choses éternelles et qu'on n'a pas besoin de les regarder de plus près, qu'il n'y avait rien à voir en fait. Hein.
Le critère ici, puisqu'on parle de besoin, donc là il s'agit en l'occurrence d'un besoin scientifique, et qu'il faut améliorer la qualité des instruments d'observation.
Il faut améliorer la qualité des connaissances déjà, avant d'améliorer les instruments. Il faut construire des instruments de plus en plus précis pour mieux voir en quelque sorte ce qu'on savait, ce qu'on connaissait déjà, enfin ce qu'on croyait connaître.
Plus en plus performant pour toujours... s'offrir des nouvelles possibilités techniques. Oui. Et comme tu l'as dit, Stéphane, il faut toujours des gens un petit peu fous, genre Galilée pour créer sa lunette, et plus tard Newton pour créer son télescope. Et puis aussi, vraiment des innovations techniques sans mesure, comme William Herschel, qui, à son époque, avait un des premiers instruments de taille comparable aux actuels instruments que l'on retrouve dans les observatoires professionnels.
Mais là, tu, effectivement, Gaël, tu soulignes un peu le caractère un peu presque fortuit de l'invention. C'est ce qu'on reprendra d'ailleurs dans le thème, la partie suivante. On va peut-être rester rapidement dans des techniques qu'on connaît. Par exemple, le télescope, on le connaît. Et dans le prolongement du télescope optique, on va construire des radiotélescopes, des télescopes munis de caméras CCD. On est dans un domaine relativement connu. On prend des techniques connues, on les applique. Et on veut simplement mieux voir.
Alors là, effectivement, une fois que le télescope était présent, donc il est né d'un savoir. Mais en fait, il va y avoir ensuite, on va se dire, mais finalement, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir en dehors du domaine visible? Et c'est de là que vont être créées des techniques pour voir ailleurs dans tout le spectre électromagnétique, donc l'infrarouge, l'ultraviolet, dans les rayons X. Je parlais tout à l'heure en fait de satellites qui s'occupent de détecter les rayons gamma. Donc en fait, là il y a bien un savoir qui va ensuite générer une technique pour voir ailleurs.
En l'occurrence, c'est l'électromagnétisme apporté par la théorie de Maxwell, par exemple, à savoir que la lumière fait partie, bien sûr, des ondes électromagnétiques, et qu'on peut observer les émissions X, c'est-à-dire vraiment au-dessus du bleu du Soleil.
Ce sont des émissions radio, précisons.
Dites le mot radio.
Ne nous enfonçons pas.
Oui,
Gaël souligne un point très important, ce qui nous évitera peut-être d'y revenir, pour gagner du temps, c'est que là, c'est quand même l'état de la connaissance. C'est vrai que si on n'avait pas connaissance que la lumière est une onde, etc., on n'aurait pas pu avancer vers ces techniques-là.
Alors, on peut citer aussi Hubble. Hubble est le fruit, en fait, d'un certain savoir, se dire qu'en allant dans l'espace, on va s'affranchir de l'atmosphère. Et donc, on va pouvoir voir les objets beaucoup mieux qu'on ne pouvait les voir avant. Donc, le télescope Hubble, en fait, est le fruit aussi d'un savoir.
Alors tout cela, c'est ce que Gauthier avait appelé une théorie réifiée, c'est-à-dire qu'en fait, là, on se contente, quand je dis on se contente, c'est pas forcément manquer d'ambition,
c'est aller le plus loin possible dans ce qu'on connaît, mais on se contente de réifier une théorie, c'est-à-dire de la concrétiser, parce qu'on sait déjà, on sait ce que c'est une planète, on sait que les étoiles émettent des rayonnements, et on va essayer de les voir dans toute leur ampleur, en quelque sorte. On n'invente rien, en quelque sorte, là, mais on voit mieux.
Alors, il y a aussi, je pense, des inventions qui sont aussi le fruit d'une certaine connaissance, qui ont été mis en fait par un besoin. Par exemple, le développement des horloges était d'abord un problème de détermination de la longitude. Donc il a fallu, et le premier en fait qui a en fait créé une horloge digne de ce nom, c'est Huygens, à peu près dans les années 1650. Et donc là, c'est pareil, on a créé un outil parce qu'il venait répondre à un problème.
Un problème économique cette fois, voilà. Un besoin économique. Voilà. Il fallait surtout mettre un terme à tous ces naufrages qui mettaient en péril non seulement des vies humaines, mais en plus qui ne permettaient pas d'aboutir, vraiment, de mettre un terme à tous ces voyages et qui permettaient un commerce, un libre-échange. C'est aussi donc l'établissement d'une nouvelle cartographie des mers, qui a permis, ça, tout ça c'est historique, hein. Aujourd'hui la science, à part en médecine par exemple, et dans d'autres disciplines économiques, répond moins à des besoins économiques et humanitaires. Aujourd'hui,
je pense qu'il y a d'autres outils, autres que des outils matériels, qui sont des outils conceptuels. Qui permettent aussi.
On parlait de technique, hein, de technologie, enfin c'est un très mauvais mot, peu importe, mais dans cela, il faut inclure effectivement toutes ces méthodes. Par exemple, les mathématiques sont à la fois une méthode de formalisation, c'est-à-dire de concret, enfin d'écriture en quelque sorte des relations que l'on établit par ailleurs, mais en même temps, elles deviennent, lorsqu'elles sont cultivées par elles-mêmes, elles peuvent ouvrir le champ de donner de nouveaux outils. De nouveaux moyens,
par exemple,
c'est-à-dire des techniques, des méthodes conceptuelles pour aborder les questions scientifiques.
Par exemple, l'écriture des équations, qui sont la bête noire de nombreuses personnes, l'écriture des équations vient d'un problème économique, c'était en fait les problèmes d'héritage, c'était les problèmes effectivement de transmission, etc. Bref, qui incluait, il fallait en fait trouver une réponse. Donc l'écriture elle-même des équations vient de là, quoi. Il y a en fait beaucoup d'autres exemples, on peut citer, je ne sais pas, par exemple, l'invention du calcul, le calcul des fluxions, enfin le calcul différentiel par Newton et Leibniz, qui répond à un problème, hein, et qui va ensuite rebondir sur...
Effectivement, il y a toujours eu des interfaces fondamentales entre les mathématiques et la physique. Jamais, par exemple, je pense que Einstein n'aurait pu établir sa théorie de la relativité générale sans reprendre les concepts mathématiques des nouveaux espaces de Riemann. L'espace d'Euclide, qui est connu tout le monde depuis le collège, eh bien, subit là d'importantes déformations et puis devient courbe lorsqu'il s'agit de Riemann.
Je pense qu'on peut citer aussi, par exemple, dans tout ce qui est en fait créer un formalisme, créer des symboles. Je pense qu'on peut créer les symboles, enfin, on peut aussi citer les symboles chimiques et les équations chimiques.
Tout à fait. Tout à fait. Ceci nous amène un peu à la transition avec la deuxième partie, puisqu'en fait, on vient de voir que, je rappelle un peu, hein, cette première partie, le savoir et l'état des connaissances permet d'accéder à un certain niveau technique que l'on développe pour aller plus loin toujours dans ce qu'on connaît déjà en quelque sorte, ou du moins où le futur est un peu contenu dans le présent, avec une petite dérive quand même qu'il faut... rappeler, puisque tout à l'heure Agnès Acker parlait d'artefact. Qu'est-ce qu'un artefact ? C'est un fait observé que l'on réintègre dans une théorie, théorie actuelle, mais qui n'est pas la bonne pour interpréter ce fait. Et en réalité, ce qui veut bien dire que le fait scientifique et l'évolution de la connaissance n'est pas strictement, n'émerge pas spontanément de l'observation ou de la technique. Ça, c'est une première chose. Donc, la technique peut enfermer, enfin, du moins, le concept, la théorie peut enfermer les révélations de la technique dans sa vision étroite des choses. Ça, c'est un pôle, si vous voulez, de ce qu'on peut dire. L'autre, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la technique peut ouvrir des champs nouveaux.
Et là, Stéphane a souligné toute l'importance d'un certain nombre d'outils mathématiques qui ouvraient le nouveau champ, et l'importance des équations, par exemple en chimie, qui ont ouvert vraiment la chimie moderne. Alors, ceci donc m'amène à ce deuxième point. Cette fois-ci, le savoir émerge-t-il de la technique? De quelle façon? Alors, je crois qu'il y a une façon évidente qui fait que il y a un savoir, en tout cas, qui émerge naturellement des techniques qu'on a mises en place. C'est ce savoir auquel on s'attendait. Hein. C'est voilà. Le résultat. Hein.
Pour reprendre l'expérience, pour en prendre la citation sur la théorie de la relativité générale, par exemple, une astuce expérimentale pour vérifier cette théorie est, lors d'une éclipse de soleil, d'observer normalement l'apparition d'une étoile qui est vraiment en ligne droite par rapport à la Terre, derrière le Soleil.
Alors là, c'est vrai qu'en fait, c'est une observation qui n'a peut-être pas nécessairement besoin d'une technique particulière.
Qui n'a pas besoin d'une technique...
Ça, c'est de l'expérimentation.
C'est l'expérimentation.
C'est de l'expérimentation. Ouais. Mais je crois qu'effectivement, on sort un peu du sujet, hein, mais tu as raison d'en parler, mais je crois que c'est une petite parenthèse.
Moi, j'aimerais bien remonter très très loin, c'est-à-dire chez les Grecs et chez les Babyloniens avant, où par exemple, l'invention du cadran solaire a permis énormément de choses, c'est-à-dire la détermination des équinoxes, la détermination des solstices, la détermination de la latitude, et vraiment pour illustrer ça, la petite tige qui est sur le cadran solaire, ça s'appelle le gnomon. Et je suis allé chercher pour savoir ce que ça voulait dire, gnomon, et il y a une interprétation, ça pourrait vouloir dire règle qui permet de connaître. Donc là, on a vraiment en fait l'outil qui permet de connaître. Enfin, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant.
Alors, on pourrait dire dans ce cadre de cette technique qui génère du savoir évident, c'est le développement de l'interférométrie, qui a permis cette fois-ci de pouvoir calibrer des étoiles qu'on ne pouvait pas observer avant et de relier directement leur luminosité vraie, leur structure A, leur spectre, dont on va parler rapidement. Donc ce sont des choses qui sont le prolongement. Et un petit détour rapidement par la spectroscopie, parce que là c'est une petite histoire qui vaut le coup d'être racontée, parce que là on est en face de quelque chose, la part, ce qu'on parlait de la part de l'inattendu, tout à l'heure, comment émerge souvent une technique, avec, non pas le hasard, hein, le hasard, bien sûr, mais enfin c'est un hasard qui ne frappe que les gens qui sont capables d'utiliser. Alors on va rappeler rapidement l'histoire de cette technique qui est très sophistiquée en astronomie. Là. Donc on va rappeler ce que c'est un spectre. Hein, quand vous prenez un prisme et que vous décomposez la lumière, ça vous fait un arc-en-ciel. Et Newton, dès 1866, avait observé que la lumière blanche pouvait se décomposer de cette façon-là. 1666. Oui. Il l'a recomposé après, derrière, pour bien montrer que la lumière blanche était bien un mélange de plusieurs couleurs. Tout est parti de là, mais Newton n'a pris que la suite de Descartes. Hein. Faut bien le dire, cocorico. Il faut attendre 1814 pour que Fraunhofer, qui était allemand, détecte dans le soleil, non seulement dans l'arc-en-ciel du soleil, il va détecter des raies sombres, des petits bâtons sombres. Et pour lui, c'était un peu mystérieux. Aujourd'hui, il en a détecté 600, aujourd'hui, on en connaît 20 000, pardon. Et puis par la suite, comment interpréter? Alors là on voit qu'un résultat émerge qu'on ne sait pas interpréter. Il faut attendre 1859 pour que les chimistes, cette fois-ci, Kirchhoff et Bunsen, finissent par voir que les corps en brûlant émettent des couleurs, mais certaines couleurs seulement, et que en fait le spectre, c'est-à-dire l'ensemble des couleurs émises, c'est un peu la signature de l'élément chimique.
Ils ont vu ça vraiment par hasard dans un incendie, non?
Non, ils ont vraiment expérimenté, ils ont essayé d'exciter les substances pour voir ce que ça donnait, et c'est Kirchhoff qui un peu a eu une intuition, et Fraunhofer l'a eu également, que les raies sombres que l'on voyait finalement dans le spectre du Soleil, et plus tard dans les étoiles, c'était en fait des éléments chimiques qui absorbaient de la lumière exactement dans les mêmes couleurs qu'ils en émettraient. Alors bref, ceci a amené après d'autres à s'intéresser finalement aux étoiles, au spectre des étoiles. Et après cela, donc il y a eu Janssen hein, en France, il y a eu Secchi en Italie. Et là, je passe les détails parce que ce qui est important, c'est qu'à partir de cette spectroscopie, on va pouvoir, tout d'un coup, on s'aperçoit que les étoiles n'ont pas toutes le même spectre. On les classe. et on se met à les classer. Et là arrive, entre en scène Pickering et l'observatoire de Harvard, et ils vont véritablement classer des dizaines de milliers d'étoiles, arriver à des catalogues. Et le couronnement de tout ce travail, c'est lorsqu'on a mis ceci, non pas en équation, mais en graphique, en graphe, un graphe qui s'appelle, que tous les astronomes connaissent, qui s'appelle Hertzsprung-Russell, diagramme HR, et on a mis en abscisse, sur une courbe, on a mis d'un côté la couleur des étoiles ou le type de spectre, hein, c'est-à-dire la composition finalement des étoiles qu'on a reliée à leur couleur et à leur luminosité pour s'apercevoir qu'il y avait des relations et qu'en fait les étoiles, elles n'étaient pas simplement des masses de gaz en incandescence ou en réaction thermonucléaire, mais qu'il y avait toute une vie que l'on a reconstituée par après et que l'on vous racontera une autre fois.
Donc à écouter vos exemples chronologiques, on se rend compte que le développement des techniques émerge de découvertes soit ponctuelles ou soit du génie de certains personnages de
la science. Oui, il peut y avoir ce qu'on appelle le hasard, mais c'est plutôt de l'aléatoire. Ouais. Et après, il y a la convergence de facteurs et après, il y a l'esprit de synthèse de certains. C'est une création, au même titre qu'une création artistique, la création scientifique.
C'est vrai qu'il y a en fait le rôle de l'inattendu, puisqu'on est...
Voilà, c'est là, on est dans l'inattendu, mais après on s'en sert.
Il y a par exemple, pour illustrer ça, l'expérience d'Oersted, qui faisant passer du courant électrique dans un fil, il y avait une petite boussole qui traînait à côté, il s'est rendu compte que la boussole, elle s'agitait complètement, quoi. Elle venait se mettre perpendiculairement au fil, et donc ça, il a découvert en fait l'électromagnétisme, et ensuite par l'électromagnétisme, eh bien, ça va en fait produire quoi ? Les moteurs, si on est là en train de parler en ce moment, bah, c'est par ce système d'induction électromagnétique, etc. Et puis ensuite la théorie de la lumière, et puis ce qui va rebondir en astronomie, donc un fait vraiment qui pourrait paraître banal, mais ça, c'est un théorème, comme disait Pasteur, que tu citais, ça ne pouvait être que parce que Oersted y était préparé, en fait.
Oui, et Pasteur cite d'ailleurs cette expérience d'Oersted, et il y avait des gens très très sérieux autour qui disaient « mais ça sert à rien, votre invention ». Et en fait, on voit aussi que pour savoir à quoi ça sert, d'une part, pour en tirer tout le bénéfice, il faut réfléchir, puis pour savoir à quoi ça sert, après, il faut y croire.
La lunette de Galilée a aussi ouvert des horizons fantastiques, en révélant les phases de Vénus, en révélant les taches solaires, en révélant les satellites de Jupiter, et donc tout un monde, et en fait, c'est une révolution conceptuelle énorme.
Donc on peut résumer les choses en disant qu'en fait, la technique, bien sûr qu'elle apporte énormément de choses, parce qu'elle permet de voir, elle permet à l'esprit d'avoir d'autres éléments, mais ces éléments doivent être réunis dans un ensemble cohérent, et c'est là que l'homme est irremplaçable pour bâtir le savoir scientifique.
Tout cela dans le seul but de l'évolution des connaissances, la synergie expérience-théorie.
Oui, puis les connaissances peut-être au service de l'humanité, mais ça c'est un autre débat.
Merci Daniel, Stéphane et Gaël pour ce débat. Donc nous allons bientôt arriver à la fin de l'émission. Donc c'était une émission consacrée à la relation entre la technique et la connaissance, ceux qui peuvent s'apporter mutuellement. Les prochaines émissions qui aura lieu le je l'ai noté en plus, le merci, le lundi 3 juillet. Donc ce sera sur l'évolution des grands programmes sous l'influence de la technique. Nous restons toujours dans le même débat à peu près, c'est-à-dire en fait comment les grands programmes astronomiques évoluent avec la technique.
C'est l'enregistrement aussi, la suite de l'enregistrement du débat.
Avec la suite de l'enregistrement du débat qui est passé sur Altenance. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Il reste quelques secondes.
Il y a tellement de choses à rajouter. On aurait tellement que... Donc on ne peut pas commencer. Là, ce serait trop vaste.
Moi, j'aurais juste dire qu'en fait... Il est vraiment important ici. Enfin, je crois que la vulgarisation scientifique a son rôle à jouer pour expliquer justement tous ces allers-retours. Quoi.
Je pense que ça a été dit la dernière fois que le rôle des sociétés d'astronomie amateur, un peu comme la nôtre, c'est justement de faire cette interface entre l'astronomie professionnelle et le grand public, on pourrait dire, parce qu'il y a la science fait encore peur, alors que c'est passionnant et qu'on peut la décrypter, la démonter. Et là, on essaye un peu d'en comprendre les mécanismes, les rouages.
Et elle implique des choix, donc une certaine liberté, donc c'est fantastique.
Voilà. Merci à tous. Vous étiez sur Alternante avec la Société de l'Astronomie.